Bonjour, bonjour, bienvenue au bar des sciences. Je peux vous servir quelque chose ? Vous connaissez pas le bar des sciences ? Bah écoutez, on choisit un thème, et vous voyez les personnes là-bas ? Ce sont des spécialistes, des chercheurs, des médecins, et ils sont là pour répondre à vos questions. Bah, regardez, ça commence, vous avez qu'à rester et vous me donnerez votre avis après.
Bienvenue, installez-vous. Donc ce soir, alimentation et santé. Donc vaste thème. On a commencé à en discuter un peu avec les intervenants là. Je pense qu'on peut tout de suite prévoir un bar des sciences l'année prochaine pour continuer le débat que nous allons commencer ensemble parce que le thème est très très vaste. On va avoir du mal à tout aborder. Je dois vous dire donc que je m'appelle Thierry Brassac, je suis coordinateur des bars des sciences, je travaille à l'Université Montpellier 2 et je suis médiateur scientifique. Vous avez ici Marie-Claude Leclerc qui travaille au service communication du CNRS et qui a dégoté les intervenants qui sont ici ce soir. Je vais proposer à Didier Monté de nous faire une petite... qu'il est microbiologiste. Et il travaille sur l'écologie microbienne des aliments que nous mangeons, des fromages AOC, et de tout un tas de choses comme ça. Et puis après, nous retrouverons donc nos autres intervenants, qui sont Romina Moruzzi, qui est donc ici cachée juste à côté de la lumière, qui est doctorante, qui est italienne, mais qui se débrouille très très bien en français, même si elle ne le reconnaît pas toujours. Voilà. Et elle fait une thèse en co-titel, en fait, avec Supagro, voilà, ici sur Montpellier. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est par rapport à son parcours. Au départ, elle est nutritionniste et elle a travaillé sur l'obésité chez les enfants, voilà, tout à fait. Et maintenant, elle travaille plus sur ce que sont et ce que représentent les consommateurs responsables. Ensuite, nous avons Antoine Avignon, qui est donc ici présent, et qui lui donc travaille au CHU et qui travaille plus spécifiquement sur les questions d'obésité et de diabète. Et Marie-Claude Leclerc, donc voilà, que j'ai déjà présenté, mais qui est aussi microbiologiste, en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter d'être bavard, je vais passer tout de suite la parole à Didier Monté, qui va prendre le micro avec Phil, qui est juste devant lui. Et juste après, la parole sera au public.
Donc c'est complètement improvisé, hein. Il ne m'avait pas averti qu'il allait me laisser la parole, mais j'arrive à bavarder pendant des heures normalement, donc je devrais m'en sortir à peu près bien. Donc je travaille en sûreté des aliments, moi. La sûreté des aliments c'est tout ce qui va vous poser problème au niveau de l'estomac et du tube digestif en général, hein. Que ce soit des bactéries, des toxines, des choses comme ça. Ça peut tuer de temps en temps, hein. Enfin, ça va de simple diarrhée jusqu'à la mort subite, dans certains cas extrêmes, hein. Et on travaille, nous, à éviter ça sur la planète. Voilà. Alors, le thème de ce soir, c'est plus alimentation et santé. Donc, je vous ai parlé des morts, et on va parler plutôt de ce qui est positif sur la santé. Alors, moi, ce que je trouve amusant dans les consommateurs, c'est que c'est des gens qui sont extrêmes. Ils veulent la sécurité absolue, la sûreté absolue. Hein. On ne voit jamais un consommateur qui va au restaurant pour mourir. Ça, je n'en ai pas encore trouvé. Par contre, ils nous demandent, nous, toujours de rajouter de la sûreté, de la sécurité. On appelle ça la sûreté, en fait. La sécurité, pour nous, c'est plus l'agriculture. Donc, rajouter de la sûreté tout le temps. On ne veut pas de bactéries, on ne veut pas de toxines, on ne veut pas de pesticides, on ne veut pas de colorants. Vous voyez, toutes ces choses-là. Quoi. Par contre, quand vous allez acheter une glace, vous aimez bien qu'elle soit rose, vous aimez bien qu'elle soit noire. Hein. Vous aimez aussi aller acheter à proximité. Hein. Dernièrement, j'ai été invité par Prades-de-Lèze, là, par le maire de Prades-de-Lèze. Il me dit, oh, ben, on fait des choses de proximité. Alors, je dis, oui, les choses de proximité, c'est sûrement très bien, mais comment vous faites pour assurer la sécurité de ces gens-là ? Eh ben, on ne sait pas faire, mais tant pis, c'est le consommateur qui est demandeur. Nous, on se débrouille, les scientifiques, après, à trouver des solutions à toutes ces choses-là. On transporte les choses à travers la planète. Tout le monde est très écologue en ce moment, très écologiste. Puis on s'aperçoit qu'en fait, tout le monde a envie d'acheter des agneaux dans les Cévennes, hein, parce qu'ils sont bons, les agneaux des Cévennes. Le problème, pour trimballer les agneaux des Cévennes, il faut beaucoup d'énergie. Et il vaut mieux, par exemple, acheter des agneaux de Nouvelle-Zélande, qui vont coûter moins cher en énergie, parce qu'ils vont venir en plus grosse quantité. Le consommateur, lui, ça le dérange pas. Lui, il passe d'un truc à l'autre. Hein. Il a envie d'avoir des plantes sans pesticides, mais il est contre les OGM. Les OGM ont été inventés pour limiter les pesticides. Vous voyez, c'est comme ça. Non, c'est pas vrai, ça ? Ah, pas uniquement. Je vous raconterai ça si ça vous intéresse. Voilà, donc moi, ce qui me surprend toujours, c'est le consommateur. Et c'est ce qui m'a donné l'idée aussi d'écrire un bouquin sur les relations consommateurs avec les médias. Les médias sont intéressants aussi, hein, ils vous apportent beaucoup d'informations. Hein. Tout à l'heure, on parlait, il y a un jour un journaliste qui va vous dire « le raisin, c'est bon pour la santé ». Oui, le raisin, c'est bon pour la santé, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est manger que des raisins. Ouais. Et on arrive à ces extrêmes-là, hein. On voit des gens qui arrivent à manger qu'une chose parce que c'est bon pour la santé. Voilà, les végétaux, c'est bon pour la santé, mais à aucun moment on a dit aux gens « ne mangez que des végétaux ». Voilà. Les interprétations des consommateurs sont toujours surprenantes. Voilà. Ça va être l'introduction. Après, je pense qu'on va passer à des questions.
On va passer aux questions, aux réactions, aux commentaires de notre cher public.
Non, une question, donc vous devez avoir la réponse. Est-ce que vous allez nous parler de NutriNet Santé, la grande étude liée justement en relation santé-nutrition? Est-ce que vous allez pousser à créer des NutriNotes, comme on les appelle sur ce site?
Donc il y a une équipe de recherche parisienne du Centre de recherche en nutrition humaine de Paris. Donc c'est un projet qui est porté par le professeur Herberg, qui est destiné à avoir une grande enquête épidémiologique, donc pour faire les liens entre la nutrition et la santé. Et donc ils essayent d'avoir des NutriNotes, puisque cette étude s'appelle NutriNet Santé, et donc d'avoir un maximum, je crois qu'ils visent à avoir 500 000 personnes qui remplissent régulièrement sur Internet leurs apports alimentaires et qui vont remplir également au fur et à mesure leurs problèmes de santé. Donc l'idée étant de faire le lien entre les problèmes de santé et l'alimentation sur le long cours. Donc est-ce qu'on va vous pousser à être des NutriNotes? Moi je pousse personne à faire quoi que ce soit. Je peux informer sur ce qu'est NutriNet, donc ce qu'on vient de faire. Je peux dire qu'il est toujours intéressant qu'en France on puisse avoir des données et qu'on puisse se faire reconnaître, au moins sur le plan scientifique, surtout quand ça peut donner des liens avec la santé et ensuite des conduites à tenir. Donc l'étude NutriNet Santé me semble une bonne chose. Et s'il y a des gens qui souhaitent être des NutriNotes, je pense que ça serait aussi une bonne chose.
Est-ce que les consommateurs sont objectifs sur leur propre pratique alimentaire, en fait?
Mais comme dans toute enquête, et toujours en alimentation, chaque fois qu'on fait une enquête, elle est toujours fausse, de toute façon. Mais c'est un biais qui existe et qui est permanent. Donc cette enquête, déjà qui va aller sur Internet, c'est déjà pas tout le monde, donc il y a forcément un biais des personnes qui y vont. Qui répond à une enquête alimentaire? Pas n'importe qui, quelqu'un qui s'intéresse à la nutrition. La personne, j'irais, qui en a rien à faire de la nutrition et qui mange n'importe quoi, il va pas être un NutriNote. Mais le fait est qu'on va quand même avoir sur 500 000 personnes un certain nombre de personnes qui ont donné des données qui, bien qu'elles soient fausses, auront un biais qui peut après être corrigé ou dont on peut tenir compte. Et s'il y a des choses qui sortent entre un lien entre un type de consommation et une pathologie donnée, on pourra quand même en tirer des conclusions et des déductions. Après, comme toute étude, et surtout l'étude épidémiologique, il y a des tas de biais.
Et on considère que c'est à quelle échéance qu'on pourra commencer à avoir des résultats sur ce type de...
Alors, NutriNet Santé, je crois qu'ils ont commencé il y a un an ou un peu plus d'un an. Ils sont un peu en dessous, comme toujours dans les études, du recrutement qui était espéré. Je crois que le recrutement espéré, c'était sur 4 ans, 5 ans, et qu'après, ils veulent un suivi sur 5 ans aussi. Donc, admettons que ça ait commencé en 2009, 2009 et 5, 2014, plus 5, donc les résultats vers 2019 pour les résultats finaux. Mais il n'empêche qu'il y aura peut-être des analyses intermédiaires qui permettront de voir des choses.
Question suivante, dirons-nous. Question numéro 2.
Oui, je crois que tout à l'heure, vous avez bien mis en évidence le rôle les contradictions du consommateur, en fait. Hein. Je crois qu'il faut partir de là, effectivement, parce qu'on dit le tout et le contraire de tout. Bon, il se trouve que j'ai été en contact avec l'industrie agroalimentaire pendant quelques années. Et je dois reconnaître tout le travail qu'ils font sur la sécurité au niveau bactériologique. Ça a été le premier combat. Puis on s'est aperçu que finalement, ben, c'était la matière première qui avait aussi des problèmes. Et on arrive maintenant à la question des métaux lourds, etc. Où là, l'industriel, finalement, il ne peut pas toujours grand-chose, puisque... Et je voulais savoir si là-dessus, ça avait avancé depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire si l'industrie agroalimentaire avait pu avancer sur la question chimique, purement chimique, et non plus seulement bactériologique.
Il y a eu beaucoup de progrès ces cinq dernières années, en fait, puisqu'il y a, un règlement européen qui est sorti en 2005, qui impose un état sanitaire parfait pour tous les consommateurs européens, en incluant les produits importés de pays qui peuvent être en développement ou non développés. Donc cette réglementation est relativement simple, puisqu'elle est étrange, hein, elle a été écrite par des juristes. Donc ces juristes imposent un état sanitaire parfait. Ils arrivent même à définir l'aliment dans cette réglementation européenne. Donc on sait que depuis 2005, un aliment, c'est quelque chose qu'on prend par la bouche. Donc ça, pour les médecins, c'est pas toujours évident, mais c'est la définition de l'aliment vue par un juriste, par les juristes européens. Ils ont surtout défini ce que n'était pas un aliment. Donc, par exemple, du tabac n'est pas un aliment, un médicament n'est pas un aliment, un animal sur pied n'est pas un aliment, une plante non récoltée n'est pas un aliment. Et il y a une ligne particulière qui dit les résidus, les contaminants ne sont pas des aliments. Voilà. Alors, résidus et contaminants, donc c'est ça que vous voulez savoir. On sait qu'il y en a partout, hein, des résidus de pesticides. Dans les poissons, on va trouver du mercure, du plomb, des choses comme ça, dans le foie en particulier, des PCB, des choses pas toujours reluisantes, hein, qui sont issues des activités humaines la plupart du temps. Et donc, il a fallu se fixer des limites autorisées, qui sont ce qu'on appelle les normes. Donc les normes, c'est des limites de produits toxiques qu'on imagine être sains pour la santé. Au-dessus, on est toxique, en dessous, on ne l'est pas. Hein. Vous voyez le problème des limites. Donc ça se calcule assez difficilement. Donc les progrès depuis cette époque-là ont été, je dirais, relativement nets. Pas par le fait qu'on ait analysé plus, mais par le fait qu'on ait donné les responsabilités aux gens. Donc la grande différence avant 2005, la responsabilité était de l'État. L'État sanitaire d'un pays était de la responsabilité des États. Depuis 2005, la responsabilité de l'État sanitaire des produits alimentaires est de la responsabilité des industriels, des producteurs. Enfin, de toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Le juriste dit ça comme ça, c'est-à-dire du producteur, presque jusqu'au consommateur. Le seul qui n'est pas responsable, c'est le consommateur. C'est-à-dire s'il fait des conneries chez lui en ayant un frigo trop chaud, en cuisant trop ses produits, lui n'a pas de responsabilité. Voilà. Donc de ce fait, en donnant la responsabilité aux gens, on a augmenté la qualité sanitaire des produits, parce qu'ils se sont mis à contrôler de plus en plus leurs produits, à mesurer ce qu'on appelle les points critiques, à établir des points critiques dans un process alimentaire, et donc à maîtriser ces points critiques par de l'analyse. Donc on a eu une progression assez nette de la qualité sanitaire des produits, bon, qui ne se voit pas au niveau du consommateur, bien évidemment. Bon, voilà. Il y a une progression, oui, de la qualité sanitaire, des normes qui sont de mieux en mieux appliquées. On commence à voir des normes appliquées même dans les pays en développement maintenant. Enfin, tous ceux qui exportent vers l'Union européenne en particulier, ou vers le Japon ou les États-Unis, qui sont à peu près au même niveau de sécurité que nous. Et donc, oui, il y a une progression de la qualité sanitaire. Hein. Je ne parle pas de goût, je ne parle pas de plaisir, je parle de qualité.
Pour rebondir aussi là-dessus, j'ai vu hier, je crois que c'était aux nouvelles, et où ils disaient qu'ils allaient analyser. Ils disaient qu'un gamin à qui on conseille de manger telle et telle chose au cours d'une journée, ils allaient en fait analyser, là c'était prévu, de plusieurs produits sur leur taux de pesticides. Et là encore, je suis étonnée qu'à la limite, que ce ne soit même pas marqué sur finalement les aliments qu'on achète. On ne sait même pas en fait, le taux de pesticides qu'on a dans le corps.
Alors bon, il y a des choses qui sont simples hein, sur l'étiquetage en matière d'alimentaire. Pour l'instant, on a obligation de marquer ce qu'il y a dans l'emballage en termes alimentaires. Si on commence à faire la liste des produits toxiques que l'on peut trouver dans les aliments, c'est l'infini. On ne pourrait pas s'en sortir.
On n'aurait pas la place sur les emballages, c'est ça?
Oui, non, il n'y aura jamais la place. Déjà, on nous demande d'écrire les 12 allergènes majeurs sur les emballages. Il y a sur des petits paquets, là, on se demande comment ils vont faire pour écrire. Ça va être tellement petit qu'il faudra fournir les lunettes avec le paquet cadeau. Là où je peux vous rassurer, c'est qu'il y a toujours le système de normes qui impose des normes pour tous les toxiques. Donc, normalement, quand vous mangez un produit alimentaire, vous êtes en dessous des normes. Alors, ces normes sont... Oui, c'est les mêmes. Hein. Il n'y a qu'une réglementation, que vous soyez dans le bio, que vous soyez dans le proximité, que vous soyez dans l'industriel, il n'y a qu'une norme pour un produit donné, pour un toxique donné. Et le toxique ne va pas varier si votre produit est bio ou pas bio. Hein. C'est la même toxicité pour vous.
Hein. Et la question, c'était même sur les produits importés.
Oui, oui, c'est, ouais. On n'a qu'une réglementation en Europe pour tous les pays de l'Union européenne. Okay. Après, les normes peuvent varier. Alors, je peux vous citer des exemples. Par exemple.
Les normes vont, enfin, le produit chinois que je vais acheter chez le chinois du coin, il ne va pas être réglementé de la même façon.
Si, ah, si, si, complètement, oui, oui. S'il est acheté en Chine, ça va être la réglementation chinoise. S'il est acheté en France, ça va être la réglementation française. Alors après, ça ne veut pas dire que le produit n'arrive pas par des filières frauduleuses ou par des filières Internet. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter vos aliments sur Internet. Là, si vous voulez vous empoisonner, c'est ce qu'il faut faire. Prenez plutôt des filières classiques, on va dire, dans des magasins. Là, normalement, ils respectent la réglementation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était incapable de tout contrôler. C'est impossible. Hein. Quand vous avez un cargo qui arrive, si on veut analyser des toxines sur un cargo, par exemple, on va faire des prélèvements d'échantillons qui sont normalisés, mais on n'aura les analyses que des échantillons. On n'aura pas l'analyse du cargo.
Là, on peut se poser une question de fond. Quand on va parler, si on parle de la sûreté alimentaire, hein, pour assurer la nourriture de la population mondiale, les 9 milliards bien connus dans 2050, on peut se poser la question, je la pose à voix basse parce que je suis dans le Languedoc-Roussillon, est-il utile de fabriquer, de faire pousser des vignes pour faire du vin? C'est pas indispensable, le vin. On peut boire de l'eau aussi. Hein, on peut manger les raisins, mais, pas manger, mais il n'en faut pas des milliers d'hectares, hein, d'accord? Bon.
À voix basse, je crois que c'est la première fois que quelqu'un parle à voix basse dans un micro, en fait.
Non, mais c'est intéressant ce que dit monsieur, oui, parce oui. qu'en fait, on sait qu'on va être 3 milliards de plus sur la planète en 2050, hein, c'est-à-dire dans pas longtemps. Donc une production agricole qui va être intensive ces prochaines années, sur une même quantité de terres à quelque chose près. On pense qu'il reste quelques terres africaines à acheter, là, dont certains s'occupent en ce moment. Et donc, il faudra intensifier la production agricole, ça c'est certain. Ou tuer des gens, hein, mais bon, c'est un choix après de politique. Mais on va sûrement intensifier la production agricole. Et il faudra passer par des techniques, soit les techniques usuelles qu'on connaît maintenant, soit des techniques plus biologiques, mais là, on ne sait pas encore faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra de la recherche dans ces domaines si on veut nourrir tout le monde. Et il y aura des tensions. Hein.
Tu prends le micro de ton voisin. Voilà.
Oui, il y a quand même un problème de suralimentation d'un grand nombre de personnes. Et une alimentation plus raisonnée et plus raisonnable, sans trop intensifier, je ne dis pas qu'il ne faudra pas intensifier, permettrait quand même de nourrir plus de personnes. Il faut bien voir qu'il y a ceux qui mangent trop et il y a ceux qui ne mangent pas assez. Et sans produire plus, on pourrait certainement avoir un peu plus d'équivalence. Donc, parce que dire qu'on intensifie pour faire consommer et utiliser l'aliment, parce que l'aliment est actuellement utilisé comme un autre outil de consommation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup de viande qui est faite, et la viande, je crois que ça a un impact assez important sur la consommation d'eau et sur l'impact écologique global. Donc je crois qu'on pourrait réduire certaines consommations et arrêter d'utiliser l'aliment comme un outil de consommation, comme un autre. C'est-à-dire à pousser les gens qui ont de l'argent à consommer plus, 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 alors que les autres à côté n'en ont pas.
J'ai une étude, vous devez la connaître, de Michel Griffon, qui était un ancien patron de l'INRA, je crois. Hein, c'est pas un roman, c'est un pavé comme ça, des chiffres, des tableaux, des hypothèses hautes, basses, etc., pour nourrir la planète en 2050. C'est extrêmement intéressant. Il est clair que si on consomme 1 kg de bœuf, hein, ou 100 g de bœuf, qui fait 250 kcal à peu près, pour faire ces 100 grammes de bœuf, il a fallu 700 à 800 grammes de céréales, dont chacun des 100 grammes de céréales fait aussi dans les 250 kcal. D'accord ? Ce qui fait qu'on dégrade en fait par 7 à 8 le rendement de la photosynthèse, donc l'énergie solaire en fait, hein, quand on mange du bœuf au lieu de manger des céréales. Alors, je ne dis pas, et là je rejoins ce que dit tout à l'heure monsieur, il faut équilibrer aussi. Mais il est clair que si on ne mangeait pas de viande, on pourrait manger beaucoup plus, nourrir beaucoup plus de monde. En France, je reprends sur les 30 millions d'hectares de surface agricole utile, il y a 3 millions d'hectares de maïs. Sur ces 3 millions d'hectares, il y a 1,5 million d'hectares de maïs fourrage. C'est-à-dire, il ne fait pas d'épi, on le donne comme plante pour nourrir les bestiaux. Et les 1,5 million d'hectares de maïs grain, Alors, je n'ai pas les chiffres exactement, mais il y a peut-être 90% qui sert pour faire des farines pour les animaux, pour les bestiaux en particulier. Le porc, les volailles, c'est moins négatif en tant que dégradation de la photosynthèse, mais c'est quand même pas bon. Donc, il est clair qu'on devrait manger moins de viande. Seulement, demandez aux Chinois, demandez aux Indiens qui commencent à avoir un niveau de vie qui augmente de ne pas manger de viande, de rester au bol de riz. Ils ne veulent pas. Regardez les consommations de viande en Chine. Dans les 5 ou 10 dernières années, c'est exponentiel la consommation. Allez leur interdire, moi je veux bien.
Je ne vois pas pourquoi on demanderait aux Chinois de ne pas manger de viande alors que nous mangeons de la viande. Ça serait quand même un peu gonflé. Puisque finalement, nous avons donné l'image de l'idéal planétaire qui est l'idéal occidental. Et depuis longtemps, ce que les gens veulent, c'est consommer de la viande. C'est sûr. Il n'y a pas que le coût en céréales, il y a aussi le coût en eau. Pour un steak, la quantité d'eau, je crois, atteint les 100 litres d'eau pour manger un steak. Dans un... Voilà, pour faire un... Donc, pour un steak, oui.
Quoi? Non, mais je veux dire, non, mais c'est juste, c'est ce que vous dites, c'est vrai, mais on est loin de là. Enfin, je veux dire, on n'arrête pas de consommer encore plus, quoi. Vous n'avez qu'à voir les étals en ce moment, là, c'est Noël, vous allez à Carouf. Enfin, je veux dire... Non mais c'est désespéré. Enfin, moi je suis très pessimiste. C'est que ce qu'on dit c'est très vrai, mais on n'y est pas du tout. Enfin,
Mais on est d'accord avec vous, oui. On est d'accord avec vous, oui.
Les étals sont une chose. Après, effectivement, le consommateur il est libre d'acheter ou de ne pas acheter en fait.
Oui, mais si on jette, si c'est sur les étals et qu'on jette derrière, ça sera pas mieux. Ouais.
Mais que pense le médecin sur le fait de... Alors, vous avez dit carrément ne pas manger de viande en fait, mais voilà. C'est quoi ce qui est raisonnable et les besoins qu'on a en termes de... Est-ce qu'on peut manger justement des céréales, des choses plus ou moins... Comment est-ce qu'on peut essayer de mieux manger, en fait, sans justement en essayant d'éviter la surconsommation des choses dont on n'a pas forcément besoin?
Comment est-ce qu'on peut éviter de mieux manger? Il y a quand même toute une frange de la population qui mange de la viande ou un produit carné ou un équivalent. Je mets le poisson avec, tout ce qui est produit protéique. Il y a des tas de personnes qui en mangent deux fois par jour. Il est clair qu'il n'y a absolument pas un besoin à deux fois par jour. Si on en mange une fois par jour, c'est largement suffisant et ça reste même encore de trop. De toute façon, actuellement en France, la consommation de protéines en moyenne est de 1,2 g par kilo par jour, donc par personne, 1,2 g par kilo par jour. Et les apports qui sont les apports nutritionnels conseillés sont de 0,8 g par kilo par jour. Donc il y a déjà un excès de 50% par rapport aux apports nutritionnels conseillés. En sachant que les apports nutritionnels conseillés, ils prennent une marge de sécurité pour éviter les carences. C'est-à-dire que la majorité des personnes, s'ils étaient à 0,6 g kilo jour, c'est-à-dire la moitié de ce qu'ils consomment, seraient déjà largement couverts. Donc il y a une surconsommation de protéines animales, ça c'est clair. Par contre, oui. Juste pour ajouter un petit mot, oui. Il est difficile, c'est pas impossible, mais il est plus difficile d'avoir une alimentation nutritionnellement équilibrée, c'est-à-dire permettant un état de bonne santé, en éliminant complètement les produits animaux.
Ok. Ouais.
Alors, végétalien, c'est pas bon. Il y a une vitamine qui est complètement impossible à apporter par une alimentation strictement végétale, c'est la vitamine B12. Et la vitamine B12 est indispensable au développement du système nerveux central. Donc, une femme enceinte qui ne mange pas de viande et qui n'apporte pas des compléments de vitamine B12, ça n'est pas bon. Ensuite, sur le reste, on peut tout compenser. Donc, il n'y a que la vitamine B12 à compléter. Par contre, il faut faire attention puisque toutes les protéines végétales sont carencées en au moins un acide aminé essentiel, c'est-à-dire que l'homme ne sait pas fabriquer, qu'il faut absolument lui apporter. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts sur ce qu'on mange et bien y réfléchir pour mélanger différents végétaux. En particulier, il faut avoir un mélange de céréales et de légumineuses, puisqu'elles sont toutes les deux carencées, mais pas dans le même acide aminé, pour retrouver l'équilibre. Donc c'est pas impossible, sauf pour la vitamine B12, et le reste, il faut...
Ok.
Oui, merci. Moi, je voulais rebondir sur deux choses. Plus une remarque, c'est par rapport à un article qui est paru hier dans Le Monde, je ne sais pas si vous l'avez lu, avec une étude qui a été faite sur des enfants de 10 ans. Et ils ont acheté, en fait, des produits dans la grande surface. Et ces produits, apparemment, dans l'étude, dans l'article qui était publié, ils venaient pour certains de hors Union européenne, avec des taux, justement, au-dessus de la norme. Donc voilà, ça c'était plus une remarque. Et sinon, juste pour les acides aminés, j'avais lu dans un article scientifique, Campbell, qu'une association maïs-haricots suffisait à apporter tous les acides aminés. bien sûr, la question de la vitamine B12, je ne la connais pas à ce niveau.
Oui, puisqu'on a une association d'une légumineuse et d'une céréale, donc c'est effectivement tout à fait. L'association légumineuse-céréale permet de compléter les acides aminés déficients. Mais enfin, tous les jours, maïs, haricots, c'est...
Pour ce qui est des autres questions sur la réglementation bio, label rouge, donc il n'y a qu'une réglementation alimentaire, quel que soit le produit. Alors le bio, c'est une réglementation européenne, c'est ce qu'on appelle une labellisation européenne. Il n'y a qu'une réglementation pour toute l'Europe aussi. Le bio, c'est l'agriculture qui est bio, c'est pas l'aliment qui est bio. Donc c'est la non-utilisation de certaines molécules chimiques sur les terrains pendant 5 ans, je crois. Après, tout ce qui est les autres appellations, donc label rouge, indication géographique protégée et système de transformation, il y en a trois là. C'est aussi européen maintenant. C'est le système français qui a été copié par l'Union européenne. Là, ça concerne un savoir-faire qui est un savoir-faire de terroir. C'est-à-dire les appellations d'origine, il faut que le produit soit produit dans la zone où il est cultivé. Par exemple, les vins, fromage, on peut avoir des AOC. Après, les indications géographiques protégées, c'est un peu moins strict. On peut transformer sur une zone géographique donnée, mais avec des ingrédients qui viennent d'ailleurs. On a le nougat de Montélimar, par exemple, qui prend des amandes qui viennent de Crète, parce qu'ils produisent plus d'amandes que nous. Donc le savoir-faire est bien de Montélimar, et les produits, certains ingrédients viennent de l'extérieur. Et après, on a une appellation spéciale aussi sur le système de transformation. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de relation au terroir, mais il y a un savoir-faire. Voilà. Là, il n'y a pas de problème sanitaire sur ces systèmes-là. C'est la même réglementation que les autres. C'est un système qui est assez intéressant en termes de développement, puisqu'on impose aux gens de s'associer ensemble pour travailler sur une qualité. Donc c'est la qualité qui est valorisée. Et quand on valorise la qualité avec des groupes de personnes, on augmente aussi la sûreté, parce que les gens se regardent, se contrôlent. Et on s'aperçoit que les produits donc de qualité sont aussi de qualité sanitaire intéressante.
Donc, vous avez beaucoup parlé de la réglementation, différentes certifications, appellations d'origine contrôlée, tout ça. Mais après, il y avait une question qui portait vraiment sur... là, on parle beaucoup de sûreté alimentaire, plus que de sécurité. Donc on s'intéresse aux microbes, aux toxines, etc. Et si on cherche à avoir une alimentation dite de qualité, dans le sens saine, vers quoi est-ce qu'il faut se tourner et comment est-ce qu'on peut connaître un peu mieux l'origine des aliments? Bon, il y a un peu toutes ces certifications ou l'agriculture bio qui sort, mais le sujet c'était alimentation et santé, donc parlons peut-être un peu plus de la qualité que de la sécurité alimentaire, quoi.
Alors là, vous êtes sur la question là, très très complexe. Vous voulez me faire dire que le bio et le traditionnel, par exemple, c'est mieux le bio ou mieux le traditionnel? Je suis incapable de le dire à l'heure actuelle, parce que les analyses qu'on a, les vraies analyses, montrent pas beaucoup de différence entre du bio et du traditionnel. Donc c'est assez, assez difficile à dire. Après, en ce qui concerne les qualités, il y a plusieurs qualités. Il y a la qualité sanitaire, vous avez compris, tout ce qui va avoir de malade. Il y a la qualité organoleptique, hein. Il y a la qualité nutritionnelle du produit qui est encore quelque chose. Donc en termes de nutrition, les produits qui soient bio, pas bio, appellation, pas appellation, ils vont se ressembler. En termes de sûreté sanitaire, dans le bio, on va peut-être trouver un peu moins de pesticides, sachant que les autres, il faut qu'ils respectent des normes qui sont assez drastiques là-dessus, hein. C'est les microgrammes par kilo qu'il faut trouver. Microgrammes par kilo, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est, je l'ai converti en temps, c'est une seconde sur 32 ans. Un microgramme par kilo. Donc on a des systèmes analytiques qui nous permettent de travailler à ces teneurs-là qui sont extrêmement faibles. Et c'est des quantités, en termes de nutrition, je pense que mon collègue ne va pas dire le contraire, on ne sait pas trop ce que ça devient dans l'organisme. Quand vous faites cuire un mélange de molécules à des doses comme ça, on ne sait pas ce que ça devient. Et on n'est pas prêt de le savoir, hein.
Alors c'est ce qu'il nous disait à table, que a priori, tout ce qui est frit, on ne maîtrise pas. Donc les barbecues, les frites et tout ça, vous oubliez tout de suite, il faut tout faire bouillir. Et dans de l'eau, comme a dit monsieur, si possible qu'il ne soit pas trop pollué en fait. Et a priori, c'est là où vous prenez le moins de risques.
Une idée, j'en ai une, oui. Moi, j'ai l'idée que quand on mange, le plaisir, c'est important. Et qu'il ne faut pas... Moi, j'ai horreur d'entendre dire « il faut manger et il ne faut pas manger ». On mange déjà avec un certain instinct et avec du plaisir. Après, on est en droit de connaître ce qu'il y a dans l'alimentation et de ce qui est plutôt favorable ou pas à la santé. Mais comme en tout, je crois que c'est les extrémités qui sont pas bonnes et c'est d'être excessif. Donc je crois que si on mange un barbecue ou quelques barbecues au cours de l'été, on comprend pas forcément sa santé. Mais je ne sais pas quel était le sens exact de votre question, mais je suis un petit peu d'accord avec vous. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, quand on mange quelque chose, notre principal risque y soit lié à un risque bactériologique ou au risque d'un contaminant. La qualité des graisses que nous ingérons a, à mon avis, un impact sur la santé beaucoup plus important, parce que ça, nous en consommons tous les jours et en quantité importante. Mais si vous voulez avoir le premier impact sur la santé, le premier impact négatif, où je retournerai ma question, est-ce que vous connaissez le meilleur moyen d'allonger la durée de vie de quasiment toutes les espèces animales? Est-ce que vous savez comment on fait quand on veut faire vivre un animal plus longtemps? Eh bien oui, on le sous-alimente. Et notre... C'est la surbouffe le problème. C'est la surbouffe. Vous ingérez, pour moi l'exemple est le même, qu'une usine ou qu'une locomotive à charbon, les anciennes à vapeur. Et puis vous avez votre charbon et vous décidez de charger dans votre cheminée. Mais la machine, vous ne la faites pas avancer plus. Et qu'est-ce qui se passe? Mais vous regardez en l'air et ça fume. Ça fume et ça n'avance pas plus et puis la machine elle finit par péter. Et bien pour moi c'est exactement pareil. Quand vous ingérez quelque chose, vous ingérez de l'énergie. C'est comme une voiture qui passe à la borne. Vous ne pouvez pas charger votre réservoir plus que ce qu'il a besoin. Et bien nous c'est ce que nous faisons. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce que nous ingérons en trop? Il y a deux solutions. On fait du stock, et quand on fait du stock on grossit, et on brûle. On oxyde, c'est comme une voiture. On prend de l'oxygène et puis on oxyde. Et il y a des déchets qui sont produits. On produit du gaz carbonique, on produit des radicaux libres, et tout ça, ça attaque les cellules. Et à mon avis, le principal problème de santé, moi quand je mange, je me pose plus la question de la quantité de ce que je mange, c'est ma principale question avant la qualité. Avant de me dire, moi je peux vous dire, je suis professeur de nutrition, je connais la nutrition, à midi, j'ai mangé saucisse frite. Question équilibre alimentaire, je peux vous dire, si vous voulez savoir un conseil, ne mangez pas saucisse frite. Mais ma principale question n'était pas est-ce que cette saucisse frite est bonne, c'est quelle quantité j'en prends. Est-ce que je me gave jusqu'à ne plus en pouvoir, ou est-ce que je fais attention à ma faim et à ma satiété, et finalement, est-ce que dès que j'ai assez mangé, je m'arrête et je n'hésite pas à en laisser dans l'assiette. Donc je crois que le premier geste santé qu'on peut faire, c'est celui-là. Alors après, il y a un deuxième geste santé, c'est qu'effectivement, j'aurais pu choisir autre chose que saucisse frite. Et que ça aurait été encore meilleur. Sauf que j'étais en restauration collective, et que finalement, les autres aliments qui m'étaient proposés ne me créaient pas l'envie, ne me créaient pas le plaisir. Et je me demande, quand on mange quelque chose dont on n'a pas envie, dont on n'a pas de plaisir, quand est-ce qu'on s'arrête de le manger? Parce que pour bien sentir sa faim et sa satiété, il faut respecter son instinct et son plaisir. Donc pour moi, c'est déjà les principales règles.
Autre chose, parce que si on continue comme ça, je crois qu'en sortant ce soir, on va tous se coucher catastrophés. Demain, on ne mange plus rien parce que c'est la panique. Je crois qu'il faudrait un peu relativiser. Je crois qu'il y a 50 ans ou quelque chose comme ça, le nombre de morts par an à cause de l'alimentation malsaine, c'était des milliers. Je ne sais pas si ce n'était pas 50 000, quelque chose, j'ai vu ce chiffre quelquefois. Aujourd'hui, on peut dire que quand il y a une dizaine de personnes qui ont une diarrhée quelque part, on parle d'épidémie, de gastro, etc. Bon, donc ce n'est pas du tout la même chose. Mais ça rejoint ce que vous avez dit en commençant, l'obsession du zéro risque, du zéro microbe, etc. Bon. Alors il y a eu un changement quand même, je crois, justement, dans ce domaine-là. On meurt beaucoup moins de toxicité aiguë. Par contre, on peut craindre qu'avec des toxiques chroniques, on meure, mais beaucoup plus tard, de maladies chroniques, donc de cancer, des choses comme ça. Alors, on ne meurt pas tout de suite, on prend un peu plus de temps pour le faire. Bon. Je crois que c'est important. Donc, on peut manger quand même
demain on mourra pas tous d'intoxication bactérienne ou de produits chimiques à toxicité aiguë. C'est quand même une différence importante. Alors après, qu'on puisse éviter des toxicités chroniques, tout ce qui est cancérigène, c'est évidemment un objectif. Avec une complication encore, parce que quand vous avez parlé des seuils de polluants, enfin, ou de toxiques dans les aliments, hein, que ce soit les pesticides et d'autres, on peut les définir à peu près. Enfin, ils sont définis réglementairement, de toute façon, ça c'est clair. Hein, c'est des microgrammes, comme vous dites, par kilo, ou des choses comme ça. Hein, même des dixièmes de microgrammes pour les pesticides dans l'eau, 0,1 microgramme par litre, hein, c'est d'un 10 milliardième de partie. Bon. Mais le problème, c'est que, et là je reconnais que ce n'est pas facile à résoudre, c'est peut-être l'interaction des synergies, si on veut, entre produits qui sont eux-mêmes à des seuils acceptables, mais dont l'addition peut être, on ne le sait pas, peut être plus dangereuse que le seul danger de chacun des produits pris séparément. Je crois que l'Europe est en train de regarder ça, mais si l'on veut faire des combinaisons de tous les produits pour voir la toxicité des mélanges, là, il faut sortir les factoriels, ça va faire des milliers et des milliers. Donc il y aura forcément à se limiter dans ce genre de toxicité de mélange de produits.
Je suis d'accord, mais aussi pas d'accord avec vous. Comme vous dites, c'est vrai qu'il faut différencier les deux choses. C'est vrai qu'on s'est très orienté sur la sécurité sanitaire des aliments. Donc on meurt effectivement aujourd'hui beaucoup moins de ces problèmes. Mais je crois qu'on reste avec des milliers, pour ne pas dire des millions de morts, liés à l'alimentation. L'espérance de vie aux États-Unis est en train de diminuer. Elle diminue pourquoi ? Elle diminue à cause de la bouffe et de la surcharge alimentaire. Et oui, mais c'est quand même important. Donc, il faut voir que ce que nous mangeons cause des tas de maladies cardiovasculaires, des tas de cancers, des tas de diabète. Donc, encore une fois, il faut quand même faire attention.
C'est bien la différence entre la quantité... que vous avez bien mis en évidence, on mange trop. Moi, dans l'étude Nutrinet Santé, je suis nutrinote, donc on sait qu'on consomme à peu près en moyenne 3000 kilocalories par personne et par jour. 2400 suffirait à peu près, 2400-2500, ça dépend homme, femme, etc. Ça dépend de la période de la vie aussi, mais on mange beaucoup trop.
Non, on mange pas, en moyenne, la population française ne mange pas 3000 kilocalories chiffre, par jour. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a écrit sur Nutrinet Santé, mais ce n'est pas du tout ça. 3000 kilocalories, ça va être un adulte homme masculin, jeune, sportif. C'est vrai que si vous avez un adolescent ou un jeune adulte, quelqu'un qui est entre 16 et 20 ans et qui fait un peu de sport, il va manger 3000 kilocalories. Oui, mais une femme, en général, elle va rarement dépasser le 2400 kilocalories. Il va vite redescendre à 2200. Oui. Et l'homme standard est à 2005. Après, il faut faire attention parce qu'il y a le travailleur physique sur les chantiers, il y a celui qui est devant son ordinateur toute la journée, il y a le 20 ans, il y a le 60 ans,
le coureur du Tour de France.
Il y a besoin de... Voilà.
Juste une question là au médecin. Vous dites on mange trop, c'est vrai. Est-ce que ça s'est pas amélioré depuis 10-15 ans? Parce que ça, c'est, au niveau médiatique, il y a quand même... il y a pas mal d'études, c'est comment dire, il y a pas mal de campagnes. Aujourd'hui, sur chaque pub, on voit... ne pas trop manger, mais bouger, je sais pas quoi, la petite formule, ça on le voyait pas il y a 10 ans.
Oui, mais quand vous avez une publicité pour une glace et qu'en dessous c'est écrit lequel marque ? L'industriel, il n'est pas fou, s'il continue à faire son message, c'est qu'il sait qu'il marche. Alors dans le on mange trop, est-ce qu'on mange plus aujourd'hui qu'il y a 50, 60 ou 70 ans en calories ? La réponse est non. Mais qu'est-ce qu'on bouge moins ? Qu'est-ce qu'on bouge moins par rapport à il y a 70, 80, 100 et 120 ans ?
On fait pas plus de sport, parce qu'on voit bien que dans les écoles, il y a des normes, enfin, on impose du sport.
Enfin, entre faire du sport et aller retourner avec sa charrue, derrière son cheval, tout le champ et tout, il n'y a pas photo que le bonbon cultivateur, il finissait quand même sur les routes.
Mais les gens, ils font du vélo, ils sont dans des salles de sport, ils se bougent.
Mais non.
Non, mais je ne sais pas, je me pose la question.
Ce que vous dites là me fait un petit peu bondir, parce que tout ça, c'est on consomme le sport. On consomme tout. C'est-à-dire, je suis consommateur, c'est-à-dire, je vais aller deux fois par semaine dans ma salle de sport pour bouger. Deux fois une heure dans la semaine. qu'est-ce que ça représente à côté de labourer un champ tous les jours et d'aller récolter
oui,
et tout ça.
C'est des extrêmes. Tout le monde ne labourait pas son champ non plus. Enfin...
Ah, il y a une époque, si vous remontez 500 ans en arrière...
Non, mais à l'échelle de 30 ans, par exemple.
Oui, mais, problème. Depuis quand est-ce qu'on a des problèmes d'obésité?
Je ne sais pas, dites-moi.
Mais il y en a toujours eu. Mais l'explosion de l'obésité, c'est post-Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est beaucoup plus récent, c'est sur les 30 dernières années. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle la révolution industrielle, mais avant cette révolution industrielle, pendant des milliers et des millions d'années, la capacité de manger d'un homme, d'un être humain, était liée à sa capacité de fournir un effort physique. Puis il y a eu la révolution industrielle, le 19e siècle, tout devient mécanisé, tout. Mais travailler dans une usine, ça restait quand même encore un petit peu de l'effort physique. Et puis là, on en est à la révolution post-industrielle. Il y a une déconnexion complète, tout à fait récente, qui s'est installée en 40 à 50 ans, entre ma capacité à manger et ma capacité à fournir un effort physique. C'est-à-dire que l'homme a évolué et sa sélection génétique a été faite sur des milliers d'années en sélectionnant qui a sélectionné la sélection naturelle? Nos gènes, ils sont faits pour faire quoi? Eh bien, l'homme, ancestralement, il faisait face à une alimentation discontinue, mais beaucoup plus discontinue que trois fois par jour. C'est-à-dire que quand il attrapait son gibier, il fallait qu'il le mange. Et qui allait bien survivre? Eh bien, celui qui allait faire des stocks. Donc, les bons stockeurs d'énergie ont été sélectionnés avec le temps. Et puis, patatrac d'un seul coup, très rapidement, disponibilité alimentaire permanente. C'est-à-dire que si vous avez faim en sortant, vous trouverez une épicerie de nuit à Montpellier et quand vous allez rentrer chez vous, les trois quarts d'entre vous auront à manger dans le placard. Il y a 60 ans, il n'y avait pas d'épicerie de nuit ici et tout le monde n'avait pas à manger dans son placard ou dans son réfrigérateur. Disponibilité alimentaire permanente, sédentarisation, déconnexion entre ma capacité à manger et mon effort physique. Tout ça, c'est une révolution énorme chez des gens qui ont été sélectionnés comme étant des bons stockeurs d'énergie. Eh bien, on prend du poids, on stocke de l'énergie.
Et en plus, les produits alimentaires sont de plus en plus transformés. Donc, la rapidité avec laquelle l'organisme peut absorber le produit est vraiment plus rapide. Donc, les glucides sont absorbés plus rapidement. Et la machine biologique de l'homme n'est pas capable de cette révolution. Et la surabondance, nous pouvons la voir dans les enfants. Les petits sont en surpoids. L'obésité, le surpoids dans les écoles, surtout les écoles primaires, est en forte augmentation. Par exemple, en Italie, le pourcentage est autour de 33%, et nous sommes un pays de la Méditerranée, donc le régime est un régime méditerranéen avec les légumes, les céréales, les légumineuses. Mais le problème, vraiment, c'est une moindre activité physique associée avec les produits alimentaires. Vraiment, les enfants vont à la piscine, 40 minutes à la piscine, mais les 40 minutes sont 30 minutes dans la piscine, 10 minutes pour prendre la douche, et après, maman, avec le sandwich, avec le jus d'orange, la focaccia, la pizza. Et donc...
Tout à fait, ça c'est une notion importante. Alors j'entends quelqu'un qui dit c'est faux. De toute façon, tout conseil et toute généralité est forcément fausse pour certains individus. Mais dans la globalité, en généralité, l'effort physique attend une récompense derrière. Et dans notre société, la récompense qui suit l'effort physique, c'est l'alimentation. Il y a peu de choses qu'on fait dans la vie que l'être humain fait sans attendre une récompense derrière. Donc s'il fait un effort, il attend une récompense derrière.
Oui.
Alors, je suis en train de lire en ce moment un livre qui est pendu par un journaliste américain spécialiste de la nutrition, qui est assez intéressant à lire, qui s'appelle Pollan. C'est assez marrant parce qu'il étudie la nutrition américaine et bon, il s'est aperçu que le système américain, c'était nourrir la population en grande quantité et à prix faible. Donc ils sont arrivés à McDonald's, hein, en gros. Hein. beaucoup de quantité, peu de prix. Donc. Et surtout, une disponibilité alimentaire qui est importante. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si vous êtes une femme qui sort du travail, vous allez avoir un aliment pour femme qui sort du travail. Si vous êtes un gamin qui regarde la télé, vous aurez des aliments pour gamin qui regarde la télé. Donc, ils sont arrivés à pousser à l'extrême la facilité et la disponibilité des aliments. Vous avez tout en surgelé, vous avez tout au magasin, et les gens ne mangent plus comme nous, là, c'est-à-dire autour d'une table, à discuter, à prendre leur temps. Ils ont de la bouffe est disponible en permanence. Alors, ce monsieur conclut que l'alimentation française est une alimentation extraordinaire, parce qu'on mange autour d'une table, on mange des choses variées, et pour lui, c'est extraordinaire. Voilà, ça, c'est les extrêmes. Et on trouve maintenant aux États-Unis des aliments donc industriels. Alors, ce qui est marrant, un aliment industriel vu par un Américain, c'est très différent d'un aliment industriel vu par un Français. Nous, un aliment industriel, c'est un produit qui est naturel, par exemple, qui est congelé, qui est mis en boîte. Ça, c'est un aliment industriel pour un Français. Un aliment industriel pour un Américain, c'est un aliment qui est, sur lequel on a mis des additifs. Alors, ce monsieur citait l'exemple d'un pain, par exemple. Alors, le pain, en France, c'est très réglementé. Hein. Il faut de la farine, de la levure et de l'eau, en gros. Hein. Et du sel, oui. Pour certains d'entre eux. Ouais. Et aux États-Unis, on trouve des pains où il y a 26 additifs. Ils mettent tellement d'additifs qu'ils ne savent plus pourquoi il y a des additifs. Et ils arrivent à des pains qui sont jolis, qui gonflent bien, tout ça, et alors que nos pains, ils gonflent aussi très bien sans additifs. Mais on est dans des situations d'extrémité dans ce pays-là, et leur rêve, c'est de revenir à une bouffe normale, c'est-à-dire manger varié.
Voilà. Oui, moi j'ai une question. Encore une question. Vous parliez tout à l'heure des cancers. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît mieux... justement le lien entre certains cancers et l'alimentation, soit ben, un excès, soit des cancers liés à des pesticides. Est-ce qu'on progresse là-dessus? Il y en a, certains cancers, je crois qu'on fait le lien, notamment celui du côlon, d'autres pas du tout, d'autres on émet des hypothèses. Est-ce que la science évolue là, sur cette connaissance cancer-alimentation, quoi, lien entre les deux?
Il y a certainement un lien entre certains aliments et ou certains composants, par exemple les acides saturés et l'évidence de certains cancers du ventre, comme par exemple Bon, je retourne sur le sujet et je reprends. Oui, il y a un lien. Et par exemple, dans mon région, qui est l'Emilia-Romagna, où il y a une forte consommation des produits carnés et surtout des cochons, nous avons le pourcentage plus haut de l'Italie sur les cancers du ventre. Et donc, mais même au niveau international et mondial, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a mis en évidence cette relation, surtout pour les molécules d'acide trans saturées. Bien. La recherche progresse et peut donc progresser mieux la connaissance. Mais certainement, une bonne alimentation peut aider la machine biologique.
Oui, peut-être parce que le terme de graisse saturée, je ne sais pas si tout le monde a été... donc je pense qu'il y a des gens qui connaissent, mais peut-être pas tout le monde, si. Et ça me paraît important parce que ces graisses saturées sont impliquées quand même dans la plupart des pathologies induites. Je crois que s'il y avait un message à retenir dans l'alimentation, c'est quand même d'essayer d'éviter les graisses saturées. C'est mauvais pour le système cardiovasculaire, c'est plus associé effectivement à certains cancers. C'est également associé au problème de poids, c'est associé au risque de diabète. Donc ces graisses dites saturées, c'est important. Donc en fait, quand on consomme des graisses, il y a trois types de graisses, très grossièrement, qui sont les graisses saturées, les graisses dites monoinsaturées et les graisses polyinsaturées. Donc une graisse, qu'est-ce que c'est ? C'est un corps gras, c'est des chaînes carbonées. Donc c'est des carbones qui sont alignés. Et entre ces carbones, il peut y avoir soit des liaisons chimiques qui sont simples, soit des doubles liaisons. Donc une graisse saturée, c'est quand il n'y a que des liaisons simples entre les carbones. Et des graisses monoinsaturées, c'est quand il y a une double liaison. Et polyinsaturées, c'est quand il y a plusieurs doubles liaisons. Donc les graisses saturées sont des graisses qui sont hypercholestérolémiantes et c'est aussi des graisses qui vont aller se fixer sur des récepteurs de l'inflammation, qui vont créer une micro-inflammation et tout ça étant très délétère. Un seul repas riche en graisses saturées, et tout à l'heure mon repas saucisse frites, il était riche en graisses saturées, tout de suite si on regarde derrière il va y avoir des conséquences. Ces graisses saturées de façon très classique, elles sont majoritaires dans les produits animaux. Donc, quand vous prenez du beurre, c'est majoritairement de la graisse saturée. Seulement, il y a un petit piège, parce que c'est vrai que c'est ce que les gens finissent toujours par retenir. Mais on ne les retrouve pas que dans les produits animaux. On les retrouve dans les graisses concrètes et les graisses végétales. Et en particulier, la graisse à chasser, je dirais, sur les emballages, c'est tout ce qui est palme, palmiste, que vous retrouvez en abondance dans l'alimentation. Et que vous retrouvez dans l'alimentation, qui est l'alimentation bon marché, et que la communauté européenne a encouragé à mettre, puisque par exemple dans le chocolat, il y a 5 ou 6 ans en France, c'était interdit de mettre des graisses végétales. Et la communauté européenne a obligé la France à laisser mettre des graisses végétales. Donc, alors quand sur les paquets c'est écrit graisse végétale, sachez qu'ils n'ont pas mis de l'huile de noix, ils n'ont pas mis de l'huile de noisette, ils n'ont pas mis du colza, ils ont mis du palme, ou du palmiste. C'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'on met ça ? Parce que c'est pas cher. Pourquoi est-ce que c'est pas cher ? Parce qu'on cultive ça dans des pays où on va faire de la déforestation, on va brûler toute la forêt, on va y mettre des palmiers pour faire ce palme et ce palmiste, on va arroser tout ça avec des pesticides, avec des populations en dessous parfois, c'est pas grave. Donc on fiche tout en l'air là-haut, tout ça pourquoi ? Pour importer ces produits qui valent rien mais qui sont pas chers, pour mettre dans l'alimentation bon marché, que nos populations défavorisées vont manger en France pour encrasser leurs artères. Donc c'est vraiment tout un cercle vicieux qui est fait. Quand vous allez dans les magasins à bas prix et que vous achetez, vous savez, c'est 24 croissants pour 10 centimes, j'exagère, c'est une caricature, vous regardez dedans, il y a graisse végétale. Tout ce que vous prenez comme ça, toutes les pâtisseries que vous trouvez en supermarché, à bon marché, il y a graisse végétale. Donc moi, si j'avais un message santé quand même sur la discussion, c'est regardez les paquets, lisez les paquets, et quand vous avez palme, palmiste ou graisse végétale, ce graisse végétale, on joue sur le côté favorable. Il y a une graisse, ici je pense qu'il y a des gens qui ont au moins mon âge ou plus, si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait une graisse dont on faisait la publicité, on jouait sur le côté végétal, c'était végétaline léger. Vous savez ce que c'est la végétaline ? C'est du copra, c'est de la coco. Vous n'avez pas pire graisse que la végétaline. Le copra, la graisse qui vient de la coco, c'est 90% de graisse saturée. C'est pire que n'importe quelle viande. De toute façon, pour savoir si une graisse elle est saturée ou pas, vous la prenez puis vous tapez dessus quand elle sort du réfrigérateur. Plus elle est dure, plus c'est qu'elle est saturée. Une graisse insaturée, c'est une huile. Donc c'est mou ou c'est liquide. Plus une graisse est solide, plus elle est saturée. C'est quand même un moyen assez simple de voir. Donc prenez de la végétaline, vous pouvez vous en servir de marteau. Ce qui veut dire quoi ? C'est de la graisse saturée. Il n'y a pas pire, il n'y a pas plus toxique.
Mais on est d'accord que ça, c'est marqué sur les étiquettes. La qualité du gras, enfin la graisse qui est utilisée, normalement,
c'est pas obligatoire.
On est saturé ou
intaturé ? S'il n'y a aucune évocation d'un effet quelconque sur les paquets, il n'y a aucune obligation à marquer de ce que l'on utilise. Donc, pourquoi est-ce que les industriels mettent graisse végétale ? Quand ils mettent graisse végétale, ça pourrait être de l'huile de noix, ça pourrait être de l'huile d'olive, ça pourrait... Okay. Ils utilisent ce terme qui est complètement indéfini, mais qu'ils ont le droit d'utiliser. À partir du moment où ils ne font aucune allusion, aucune allégation, ils n'ont aucune obligation de mettre avec précision la nature des ingrédients. Ils sont obligés de mettre de quoi c'est composé. Ils sont obligés de mettre qu'il y a du gras, ils sont obligés de mettre un additif s'ils ont mis un additif, mais ils ne sont pas obligés d'aller dans la précision sur la qualité des graisses qui sont mises.
Et alors même dans la partie calories et tout ça, on n'est pas obligé de mettre dans les gras
De toute façon, ils ne sont pas obligés de mettre des calories.
Ah, ils sont
à
obligés.
Partir du moment où ils mettent les calories, où ils mettent la composition alimentaire, c'est qu'ils ont une... Par exemple, si vous mettez riche en quelque chose, là, ce coup-ci, la loi va vous obliger à mettre cette fameuse table avec des éléments précis. Mais si vous ne dites rien, si vous dites croissant, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre ce qu'il y a dans votre croissant. Si vous dites croissant allégé, est-ce que si vous allez être obligé de détailler ?
Moi j'ai une question, bon, c'est un petit peu un retardement, je vais revenir sur la question des graisses et de leur nature. En fait, donc, vous dites que donc, les graisses complètement saturées sont nocives, et encore il y a quelques temps on avait à l'inverse des publicités ou des messages médiatiques contre les graisses, ce qu'on appelle les transfats, les graisses saturées en trans. Alors si on ne peut pas manger les graisses saturées ni les graisses insaturées, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel est le message à pas écouter ou quel message à un petit peu contrebalancer ?
Les acides gras trans, c'est autre chose. C'est pas les graisses polyinsaturées. Les graisses polyinsaturées, en général, justement, sont pas en trans. Elles sont pour la majorité d'elles des graisses cis. Là, ça devient peut-être un petit peu précis et un petit peu complexe. Donc quand vous avez des graisses qui sont des graisses polyinsaturées, donc qui ont plusieurs insaturations de façon naturelle, les liaisons sont en cis. Quand on sature artificiellement ces graisses, on va donc de façon chimique, les autres liaisons vont passer en trans. Et c'est vrai que ces acides gras trans ont en gros les mêmes défauts que les graisses saturées, c'est-à-dire d'être hypercholestérolémiants et d'avoir d'autres effets délétères sur le risque cardiovasculaire. Alors ces acides gras trans, il y a deux moyens de les avoir dans l'alimentation. C'est la saturation artificielle par les industriels. Par exemple, dans les margarines, il y a eu 3 générations de margarines. Vous avez la première génération de margarine qui était un mélange de graisse végétale et de graisse animale. Vous savez, c'est ces cubes en aluminium qu'il y avait et qu'il y a encore un peu, je crois, dans les supermarchés. Ensuite, il y a eu la deuxième génération de margarine. Et là, les industriels se sont aperçus qu'ils pouvaient saturer artificiellement les graisses végétales, l'objectif étant de les solidifier. Et là, c'est les deuxièmes générations. Est-ce que si on n'est plus dans la feuille d'aluminium, on est dans la barquette en plastique. Si les industriels ont mis une barquette en plastique qui leur coûte plus cher qu'une feuille d'aluminium, c'est parce que ces graisses étaient moins solides. Et s'ils avaient entassé les cubes, ils auraient eu un truc tout plat en bas. Ceci dit, maintenant, on en est aux margarines de troisième génération, qui sont des émulsions. Et quand vous regardez les paquets des margarines, vous êtes à moins de 1% d'acide gras trans. Alors pourquoi est-ce qu'on sature artificiellement ces graisses ? Ben, c'est quand vous avez des stocks d'huile, vous essayez de les écouler, donc vous les saturez. Et puis à nouveau, où c'est que vous les retrouvez ? Ben, toujours dans ces fameux croissants à 24 croissants les 50 centimes, à toutes ces pâtisseries et tous ces trucs-là qui sont bon marché. Et puis l'autre source de trans, c'est les ruminants. Quand les ruminants transforment les graisses, et quand vous prenez des graisses qui ont été produites, donc les graisses du lait, vous avez un peu de trans dedans. A priori, les études montreraient que les trans dans les produits laitiers sont moins néfastes que les trans obtenus industriellement. Donc, mais majoritairement, quand vous prenez de l'huile d'arachide, qui est riche en saturé, par contre, ça fait partie des huiles les plus riches en saturé, quand vous prenez de l'huile de tournesol, quand vous prenez de l'huile de maïs, quand vous prenez de l'huile de colza, vous n'avez pas de trans dedans.
Mais est-ce que là aussi, est-ce qu'il y a une obligation de notification sur les trucs ou...
Sur les trans, c'est obligatoire de noter la teneur en trans quand il y a des trans.
D'accord, donc c'est quelque chose de produit repérable modifié. Et traçable.
Oui.
D'accord.
Ce sera le mot de la fin. Ça vous dit ? Voilà. Merci en tout cas. Alors à Marie-Claude qui nous les a sortis des laboratoires. À vous tous pour votre discussion et à vous tous aussi parce que si on n'a pas un bon public, on n'a pas un bon bar des sciences et il faut les deux. Donc nous on gère les intervenants et tout et après le reste c'est à vous de jouer. La qualité aussi de l'échange de ce qu'on propose, c'est aussi parce que les gens ils en parlent autour d'eux et qu'ils amènent des amis à eux et que on a des gens qui sont chaque fois complètement différents et que c'est chaque fois la surprise. Donc voilà, vous êtes nos meilleurs agents publicitaires. Et puis après, donc encore une fois, merci à vous. Et puis à très bientôt. Voilà, bonne soirée.
Me revoilà. Alors, est-ce que ça vous a plu ?
Ah, je suis content que vous ayez apprécié. Écoutez, si ça vous intéresse, les rencontres ont lieu un jeudi par mois au Baloir à Montpellier. Et vous pourrez retrouver les programmes et les archives audio sur leur site internet www.barscience.fr. Et sachez que les rencontres ont été organisées par le Presse UMSF et le Pôle Culture Scientifique de l'Université Montpellier 2, en partenariat avec l'INRA, le CNRS, l'INSERM, l'IRD, le CIRAD, et en collaboration avec la médiathèque Émile Zola, les librairies Sorams, l'Agora des Savoirs, Radio Aviva, Radio Divergence et Radio Campus Montpellier. Bon, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine fois alors. Bonne soirée.